à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez votre quotidienne d'actualité locale et associative, Info Club Sandwich. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur notre direct de dimanche dernier lors du festival Minuit avant la nuit, avec, pour commencer, une interview exclusive d'Antoine Grillon, directeur de la Lune des Pirates, qui adresse un premier bilan du festival à Alice et Rémi.
Antoine, bonjour. Comment tu te sens là, en cette fin de cette dernière journée de festival ?
Je me sens fatigué et soulagé et heureux. Voilà, un petit résumé en trois
c'est
mots.
C'est ça, un espèce de mélange d'émotions un peu contradictoires et un petit peu étranges, j'imagine.
Exactement.
On en avait déjà discuté avant l'interview. On est là aussi peut-être pour faire un premier bilan de cette édition de Minuit avant la nuit. C'est quoi ton premier ressenti ? Quels étaient les objectifs ? Est-ce qu'ils sont remplis ?
Ressenti qui est très positif, forcément. On a eu un alignement des planètes, c'est peut-être normal quand on s'appelle Minuit avant la nuit, mais la météo en tout cas était très favorable quand on voit à Amiens ce qui s'est passé le week-end dernier et même peut-être ce qui s'annonce pour les prochains jours. Donc on n'a pas forcément de plan B sur le festival avec des chapiteaux ou des zones couvertes, donc on est très dépendant de la météo et ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et donc le public a répondu présent, c'était forcément un objectif quand on fait un festival. C'est avant tout pour les gens. Ils ont répondu largement présent. D'ailleurs, on va être sur une fréquentation record par rapport à l'histoire du festival. Et sur cette cinquième édition, on n'aura jamais eu autant eu de spectateurs. Donc c'est très bien pour nous. Voilà.
Justement, ça représente combien de spectateurs Minuit avant la nuit cette année ?
Alors, je ne peux pas tirer un bilan exact de la fréquentation parce que voilà, y a encore des gens là qui arrivent fait d'ailleurs plus de monde le dimanche là aujourd'hui que l'année dernière, ça je peux d'ores et déjà le dire, mais on devrait être à plus de 13 000 spectateurs sur le festival.
Ok, quand même, ouais, c'est non négligeable.
J'aimerais bien te demander, est-ce qu'il y a un moment justement qui a été particulièrement marquant, une anecdote particulière que tu aimerais nous raconter ?
Il y a plein de vies dans la vie en fait dans ce festival. Il y a des festivals dans le festival, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment dur d'en ressortir un plus que d'autres. Mais forcément quand on. Le lancement est toujours quelque chose de particulier quand même, que j'ai envie de souligner, parce que le montage du festival il commence tôt, on attaque le vendredi, donc il y a 10 jours maintenant. Les techniciens qui s'affairent avec les bénévoles, tout ça se met en place. C'est la concrétisation de mois et de mois de travail. Et le moment où on ouvre les portes, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Ça veut dire qu'on donne le go, on est prêt pour ouvrir. Et c'est parti. Donc c'est là où il y a déjà un premier relâchement qui se fait. Et puis, généralement, à l'issue du premier soir, quand le gros est passé, là, il y a un deuxième relâchement qui se fait. Et le reste du week-end est souvent plus sympa.
Je sais que d'habitude t'aimes pas trop me dire quel artiste tu as préféré, quel concert tu as préféré, parce que c'est normal, il n'y a pas de concurrence entre les artistes, l'art c'est subjectif, mais il me semble qu'il y a quand même un artiste en particulier qui t'a marqué sur cette édition.
Ouais, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Tiff a fait vraiment un super live sur cette scène couchant hier soir. On savait de quoi il était capable. Moi je l'avais jamais vu sur scène, j'avais beaucoup écouté, donc je faisais partie de ces gens qui pouvaient chanter les paroles en live, mais jamais vu sur scène. Et voilà, tous les codes du rap sont présents, il y a tout ce qu'il faut pour en faire un grand rappeur, mais le fait que ça soit joué live avec un groove, avec des percussions, des derboukas, avec des belles mélodies au piano, tout ça apporte une dimension qui est hyper rafraîchissante dans le monde du rap. Et en fait, ça a été une immense fête, quoi. Et moi j'ai passé un super moment et je pense que le public aussi, si on se fie à l'ambiance qu'il y avait hier.
C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti. Il a réussi à convaincre tout le monde dès le début, en fait. Dès le premier morceau, il envoyait énormément d'énergie et ça s'est ressenti.
Ouais, et puis il a commencé son set avec des gros singles directs. Mmh. Et voilà, il n'y a pas eu de round d'observation. C'était lourd, on va dire, direct.
Félicitations à lui, Alice, je t'en prie.
Est-ce que tu as des idées justement en tête pour l'année prochaine, des améliorations particulières, des nouveautés que tu voudrais mettre en place déjà ?
Il y a des choses nouvelles qu'on peut mettre en place, il y a des choses aussi qu'on peut encore améliorer forcément, et puis il y a des choses nouvelles qu'il y a eu cette année qu'on aimerait poursuivre, et je voudrais souligner l'apport de cette fameuse scène combo, qui était un peu la scène pirate, la scène cachée. Je pense même d'ailleurs qu'il y a des festivaliers, ils sont passés à côté, ils sont allés aux toilettes, ils n'ont même pas fait attention, mais c'était pas plus mal parce que la capacité d'accueil de l'endroit était quand même assez limitée. Et les quatre propositions artistiques qu'il y a eu sur cette scène combo étaient vraiment super. Et on parlait des concerts marquants de cette édition. Je pense que Cabochet, j'ai eu beaucoup de retours sur vendredi soir Cabochet et Babies Berserk aussi hier soir. Et voilà, on est sur une scène un peu cachée, dans son simple appareil, mais dans un cadre qui est ultra verdoyant, tout bucolique, tout en longueur. Et on voit déjà que ça fleurit sur les réseaux sociaux. Ça donne plein de belles images et forcément, il y aura plein de super souvenirs. Donc ça fait partie déjà des choses qu'on aura forcément envie de renforcer pour le futur. Quant aux gros changements, on peut avoir des idées, mais c'est vraiment prématuré d'en parler aujourd'hui.
Là comme ça, est-ce que toi tu verrais un truc pour améliorer cette scène combo? Qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement? Plus d'artistes, une scène qui tourne aussi pendant les autres concerts?
Pourquoi pas, oui, il y a des perspectives comme ça. Je pense qu'on peut encore améliorer la scénographie autour de cet espace. Okay, ouais. On avait fait des choses là, c'était plutôt sympa, mais on peut aller encore plus loin. Il y avait deux gros yeux là derrière la scène. Mmh. Peut-être qu'on peut jouer encore plus là-dessus. Et puis peut-être ajouter encore une densité artistique sur la scène. Pourquoi pas.
Super. Concrètement, à ce moment-là du festival, on est l'après-midi du dernier jour, il reste un artiste juste après qui est Nonsense Arabit. Qu'est-ce qui reste à faire pour toi et les équipes de Malne?
Le dimanche est quand même plutôt traditionnellement un moment où on est plus cool. Voilà, la pression redescend, on profite. C'est un moment où on passe beaucoup de temps à prendre des nouvelles des uns et des autres, à débriefer, voir comment ça s'est passé, prendre note aussi des retours. Et puis voilà, après faut pas trop s'endormir quand même parce qu'on a 3 jours et demi de démontage. C'est pas forcément le plus fun et le plus excitant. Il y a toujours plus de volontaires pour monter un festival parce que le festival arrive derrière que pour le démonter. Mais c'est néanmoins nécessaire. Et puis je dirais même que les prémices de l'édition N+1 commencent au démontage. C'est-à-dire que si on range bien les choses, qu'on sait où elles sont, qu'on sait où on peut les retrouver pour l'année prochaine, on gagne déjà du temps pour le montage de l'année suivante.
Eh bien, bon courage à vous pour cette dernière étape, ce dernier rush. Merci d'être venu débriefer avec nous sur l'antenne de Radio Campus Amiens en direct du festival Minuit avant la nuit. Et puis à l'année prochaine aussi, parce que j'imagine que là, il va y avoir une bonne période de repos pour vous avant de rattaquer en septembre. Merci à toi Antoine,
merci.
À la prochaine.
Merci, à bientôt.
Vous venez d'écouter une interview exclusive d'Antoine Grillon, directeur de la Lune des Pirates. Pour rappel, cet entretien a été réalisé lors de notre direct au festival Minuit avant la nuit qui s'est déroulé dimanche 9 juin. Je tiens également à vous rappeler que vous pourrez retrouver le tour essentiel de la prévention santé de CCMO Mutuel le 12 juin prochain à Amiens. L'objectif de cette 13e édition est de prévenir les troubles auditifs. Si jamais vous loupez le passage du tour à Amiens le 12 juin, vous pourrez également le retrouver au Havre le 13, à Rouen le 14 et à Abbeville le 15 juin prochain. Au programme, un audioprothésiste recevra individuellement les participants pour des entretiens personnalisés et des tests gratuits. Pour rappel, cette opération est gratuite et ouverte à tous. Je vous propose maintenant d'écouter l'interview des éditions du Monstre réalisée par Giacomo.
J'ai donc la chance d'être ici avec Léa, Alexandra et Camille des éditions du Monstre. Salut.
Salut. Salut.
Alors, première question, comment ça va?
Oh bah ça va très bien.
Ça va, oui.
La forme, il fait très beau.
Ouais, ça c'est bon. Et toi Camille, ça va?
Super, super.
Nickel. Alors donc, Édition du Monstre, c'est un collectif hein, qui est né il y a à peu près une vingtaine d'années sous ce nom. Et voilà, presque 20 ans plus tard aujourd'hui, en 2024, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que sont les Éditions du Monstre?
Oui, alors les Éditions du Monstre, c'est un collectif de graphistes illustrateurs réunis principalement autour de la pratique de la sérigraphie, donc qui est une technique d'impression. Et on est installé dans les locaux de la briqueterie à Amiens. Voilà.
Okay. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein des Éditions du Monstre?
On accueille des artistes, un atelier mutualisé. On fait pas mal d'impressions pour des événements. On est lié aux autres résidents de la briqueterie. On fait des affiches de concerts. On fait pas mal de fanzines collectifs aussi. On est comment on, on, f- on fait plein d'activités, on fait aussi de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on anime des ateliers où on fait des démonstrations, des initiations à la sérigraphie, que ce soit pour des jeunes, des plus vieux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre?
On voit déjà plein de choses. Et donc, est-ce qu'il faut être artiste pour pouvoir intégrer les étudiants du Monstre, ou est-ce que c'est ouvert un peu à tous et à toutes, étudiants amateurs également?
Non, c'est ouvert à tout le monde. Par exemple, en ce moment, on a Lubin, qui est étudiant à la fac d'art, qui est venu nous donner un petit coup de main sur le stand. On accueille plein de gens qui ont envie de s'essayer à la technique de la sérigraphie. Okay. On est ouvert.
Et vous, en fait, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos parcours, en fait, comment vous êtes arrivé au sein de ce collectif?
Alors moi, c'était juste après mon diplôme, j'ai fait un service civique à la briqueterie et j'ai découvert les éditions du Monstre. J'ai rencontré Laure Bignon, qui est la créatrice des éditions du Monstre. J'ai rencontré Laure et c'est vrai que j'ai découvert la sérigraphie et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai fait des études de graphisme, d'illustration. Et c'est vrai que tout ce qui est technique d'impression, artisanat, quand on est dans l'illustration, c'est très important. Donc j'ai commencé vraiment à m'y pencher sérieusement et à commencer à travailler avec les éditions du Monstre. Voilà.
Donc Camille et Alexandra, quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivée au sein des éditions du Monstre? Camille?
Moi, c'est pendant mes études en graphisme aussi. J'ai fait mes stages aux éditions du Monstre et c'est comme ça que j'ai découvert la sérigraphie.
Et est-ce que toi, comme Léa, tu connaissais pas vraiment le monde de la sérigraphie avant? C'est quelque chose que tu as découvert sur le tas, ou tu étais déjà un peu sensibilisé?
C'est quand même une technique à laquelle j'étais sensibilisé, ouais, mais j'ai vraiment découvert en immersion lors de mes stages.
Okay. Et toi, Alexandra, je vois que tu as un parcours un peu différent. Tu n'es pas artiste. Enfin, tu l'es en quelque sorte, mais comment tu es arrivée aux éditions du Monstre?
À la base, j'ai fait des études d'art, mais j'avais pas pratiqué la sérigraphie. Mais c'est parce que je suis musicienne et que j'avais envie de sortir un album, on va dire physique, qui soit une jolie œuvre. Je me suis rapprochée des artistes des éditions du Monstre et j'ai parlé de mon projet. Et c'est en réalisant ce projet, en fait, que je me suis plus intéressée, du coup, à la sérigraphie et que j'ai commencé à la pratiquer. D'abord pour mon projet et puis après, j'y ai pris goût et j'ai participé comme ça au projet des autres.
Bah, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est vrai que la relation entre le monde de la sérigraphie et de la musique est vraiment assez étroite. Donc, c'est bien aussi de pouvoir en parler, en direct. Petite question, donc vous avez animé également l'année dernière un festival de micro-édition, les micro-machines, c'est ça? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu en quoi ça consistait et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience qui a été très positive au sein de la briqueterie?
Alors ça fait plusieurs éditions du festival de micro-machine qu'on fait. Alors l'année dernière c'était un petit peu spécial parce que en fait on avait organisé des workshops, des conférences et aussi le gros temps fort c'était le salon de micro-édition. Donc l'idée c'est d'inviter, on avait fait à la fois un appel à participation et à la fois on avait invité des gens, des collectifs qu'on aime bien. Par exemple on avait invité l'Ardente, qui est un collectif de micro-édition lillois qui nous invite du coup pour nous remercier un peu en festival dernier week-end de juin.
Tu pour parles
un festival
de Silicate,
ouais, Silicate Festival.
Ouais, voilà. Ils nous ont invités. Ouais. Très bien.
Et donc c'est festival salon de micro-édition avec des concerts parfois. Et donc il aura lieu l'année prochaine. Okay. On n'a pas encore la date exacte, mais ce sera mai 2025.
Et donc en fait, vous avez invité des collectifs. On vous invite aussi. C'est un monde assez solidaire, le monde de la micro-édition, j'ai l'impression.
Ah oui, quand même, c'est quand même assez difficile de travailler dans la micro-édition. C'est un milieu qui n'est pas très rémunérateur, donc forcément on est un peu obligé de se serrer les coudes.
Donc voilà, ça reste un monde assez ouvert. Voilà.
Oui.
Et si on veut parler un petit peu des artistes que vous avez rencontrés au centre, voilà, ça peut être dans le festival l'année dernière ou en général des artistes que vous avez retenus, est-ce que vous avez quelques noms à vous donner, quelques artistes qui ont influencé votre travail? tirer de la micro-édition
Alors, il y avait plein de trucs intéressants et surtout, en fait, il y avait Gauthier Rivera et Marie Grimal du collectif Marie Gauthier qui avaient invité en fait le collectif Matriarchka pour faire un workshop. D'ailleurs, on vend le fanzine pour faire un workshop. En fait, ils ont réalisé un fanzine en une semaine et c'est vrai que leur travail est super intéressant. En fait, c'est un collectif de plein de graphistes et d'illustrateurs européens en fait, qui se réunissent au sein d'un collectif un peu à l'échelle européenne et leur travail est super intéressant. Okay. Matriarchka.
Merci. Et effectivement, voilà, tu as cité ton stand ici, donc j'invite tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, soit chez eux, soit dans leur voiture, à nous rejoindre ici au Parc Saint-Pierre pour pouvoir voir le très beau stand des éditions du Monstre. Alors qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut voir ici à votre stand?
Alors là, on a ramené une collection des productions issues de l'atelier, donc les fanzines dont on parlait, donc tout ce travail collectif, mais aussi différentes affiches. On a encore l'affiche qu'on avait faite pour Minuit avant la nuit il y a 2 ans. Et là, en fait, on propose aussi une démonstration de sérigraphie avec plusieurs visuels. Donc vous pouvez passer commande d'un des visuels et repartir avec un petit peu plus tard. Là, je crois qu'on a trois visuels différents cette année.
Merci beaucoup. Donc, vraiment, faut pas hésiter à passer, à en profiter. Et sinon, est-ce que prochainement, vous serez dans d'autres événements à Amiénois pour proposer un petit peu d'autres ateliers ou en tout cas représenter les monstres au public?
Oui, alors les 22-23, on est à la BD.
Rendez-vous de la BD au Alfressiné.
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous allez proposer dans ce cas-là?
Alors, on aura un stand et on va aussi proposer des impressions de visuels issus des artistes invités en fait, au festival de la BD. On va proposer 3 impressions d'illustrations. Voilà. Et le dernier week-end de juin, on est au Silicate Festival à Lille.
Okay.
Voilà. Au tire-laine.
Ok. Ben, merci beaucoup à tous les trois, Léa, Alexandra et Camille, en édition du Monstre.
C'était l'interview des éditions du Monstre, réalisée par Giacomo lors de notre direct au festival Minuit avant la nuit. Je vous propose de terminer cette émission avec le morceau Feel Good de Charlotte Cardin, artiste québécoise qui était programmée au festival. Merci pour votre écoute, à demain.
Y a ma main dans la fenêtre, titanique. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon âme.